Pour moi, l'exil, c'est pas l'exil politique, c'est l'exil social. C'est même pire que l'exil politique quand on se sent étranger. En fait, quand on est en exil, on est des aliens, on est comme les handicapés, tout le monde nous regarde. Même si on essaye de s'intégrer profondément dans la société, on a toujours, on dirait, une couronne dans la tête qu'on dit pas français.
Alors que la personne qui s'exprime là a bien la nationalité française, du moins elle a la double nationalité, elle, c'est Golshifteh Farahani, l'amoureuse de Paris est devenue française sans jamais renier d'où elle vient, l'Iran, ni ce qu'elle doit à ses parents, artistes de gauche. Bonjour et bienvenue dans cette 15e visite de la saison 8 du Panthéon des Cousus, Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Dans cette visite, c'est Star Persan, francophile passionné des lettres et jeune fille qui fut tout sauf bien sage. Si, si, vous verrez. Après ce court son sur l'exil confié au Nouvel Obs en février 2020, un premier de nombreux extraits de l'interview par Rebecca Manzoni dans Totemic le 10 mai 2024.
Je suis la continuation des ancêtres qui ont tellement poussé pour ouvrir les murs. Vous savez, quand on tient un trou élastique et on dit « vas-y, passe, 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 passe » et une personne passe et l'autre, il doit tenir encore et laisser l'autre passer. Et nous, c'est comme un feu d'Olympique, en fait. On est en train de le porter.
On ne peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas vécu. L'exil, ça arrache une grande partie de l'âme. On dirait que 9 dixièmes de notre âme reste et 1 dixième sort. Et on doit reconstruire avec cette mèche de cheveux de l'ADN qu'on a en mémoire.
France 24, en mars 2024.
Mais en même temps, l'exil, ça devient notre force, comme tous les malheurs, les croix qu'on porte, le poison qu'on respire, tout ce qu'on prend comme douleur et la peine, on peut le transformer dans la création, dans l'amour, dans l'art, tout ce qui donne quand même l'aspirer les autres, donner l'espoir aux autres, imagination aux autres, d'avoir une nouvelle vie, d'autres vies.
Quelle sensation, quelle révélation en arrivant à Paris ?
Ma religion, là, de vivre la vérité. Et ça, c'était tout ce que je voulais.
Et retourner à Téhéran ? Sa réponse à Télérama en avril 2014.
J'y pense même pas, juste que je demande à mes amis, mes parents de m'envoyer des fruits qui n'existent pas ici, comme les amandes fraîches qui viennent m'envoyer, et des amandes vertes qui ça commence à pousser, et ça c'est... Oh, et le citron doux, les noix frais, c'est en septembre. Les berries, pas comme fraises, mais on a des berries qui ça n'existe pas ici. C'est la meilleure au monde et c'est tellement difficile à voyager parce que ça reste quelques heures, après c'est pourri. Et quand un voyageur réussit à m'amener, c'est vraiment le goût de l'Iran, le goût de Téhéran. C'est ça qui me manque plus, le goût et les odeurs et conduire. Conduire.
Quand on est né pendant la guerre et dans les situations un peu absurdes, on rêve toujours d'ailleurs, on rêve toujours des jeux, on joue des rêves qu'on ne peut pas vivre. Donc, je crois que l'imaginaire, c'était très très présent, de toujours imaginer, de toujours se projeter dans quelque chose qui n'était pas là en fait.
Sortie cette semaine, pour ceux qui écoutent en direct, elle joue le premier rôle dans le film de l'Israélien Eran Riklis, Lire Lolita à Téhéran. Même sans connaître la réalité noire et toujours hélas actuelle du roman de Nabokov, vous imaginez ce qu'il peut représenter dans l'Iran des Mollahs. Interview pour le magazine Elle de ce mois.
Great books are supposed to make you feel uneasy and make you question what you take for granted. Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back.
Personne m'a appris de me protéger pendant les harcèlements sexuels. Quand j'étais toute petite, je savais qu'il faut survivre et je savais que j'ai pas le temps d'être déprimée. En fait, j'ai cette petite oiseau en moi, dans la rhinocéros, dans cet avatar qui me protège. Mais j'adore d'ouvrir la porte, sortir et juste lâcher toutes ces défenses.
Après la grande librairie en mars 2024, retour à Totemik.
En fait, mon enfance, c'était plutôt les chants parce que mon père était de gauche, mais très sérieusement. On écoutait beaucoup de chansons de moments des soviétiques, mais de Azerbaïdjan, comme Rachid Behboudov, Bulbul, ou Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski. Beaucoup de musique classique. Ça, c'était mon enfance. Et aussi les chants que mon père, il chantait. C'était très les chants folk d'Iran, et c'était toujours, il avait toujours quelque chose, il tapait comme une percussion et il chantait dans toutes les fêtes, même dans son mariage à lui, c'est lui qui l'a joué avec une espèce de, comment dire, des brosses, il a mis un truc de cigarette dedans et il faisait un son très drôle qu'il le fait. Pour
une feuille de papier à cigarette sur un peigne?
Exactement, sur une peigne. Mon père, il travaillait beaucoup à la radio. En fait, c'est comme ça qu'il a commencé son métier. Il écrivait les pièces pour la radio. Et moi, petite, par exemple, j'ai entendu Petit Prince et j'entendais Le Renard, qui était mon père, la voix de mon père. Ou d'autres pièces, c'était Chope à la Cronoum, c'était l'histoire d'un papillon qui a été interdit par le régime parce que c'était très, très noir comme histoire. Mais moi, parce que mon père, il travaillait à la radio, on avait toutes ces pièces-là. Et moi, je les écoutais en boucle. Et c'était comme, bien sûr, les dessins animés de Walt Disney, qu'à ce moment-là, c'était pendant la guerre, on regardait en allemand. Et c'est pour ça, comme je connais plein de mots en allemand, parce que j'ai regardé tous les dessins animés, Robin Hood, Cyrnella, tout ça, en allemand. Parce que l'ami de mon père, il nous a donné en allemand. Mais oui, on regardait beaucoup de films, beaucoup de choses, beaucoup de pièces, beaucoup de théâtre. En fait, notre vie, c'était remplie des histoires, toujours.
Alors, ce premier film à 13-14 ans?
Je crois, si je commence au début, c'est Le Poirier que je jouais en 97, mon premier film.
Imaginez une grande maison dans une vallée de montagne. Beaucoup de gens, sans doute, une grande famille réunie. Tout est paisible et bien animé, surtout par gauche shifté, tête rasée, toujours à faire les 400 coups, suivi de près par un garçon de la famille, plus jeune. Troublé, il s'éveille au sentiment. Avec Dariush Mehrjoui, un des plus grands metteurs en scène d'Iran, réalisateur d'Iran, qui a été assassiné il y a un an dans sa maison avec sa femme. C'était vraiment très choquant. Et j'ai fait deux films avec lui, Poirier et aussi Saint-Ouri plus tard, où j'ai appris de jouer. Carrément, c'était ce film-là qui m'a appris. Et après, bien sûr, M comme mère, qui m'a vraiment donné à le peuple iranien, comme c'était un film populaire, M comme mère. J'avais seulement 23 ans, 22 ans, j'étais très, très jeune. Survivre, c'était lié à jouer. Ça veut dire, à l'école, c'est devenu jouer quelque chose que je n'étais pas. Après, plus tard, c'est devenu beaucoup plus complexe, le jeu.
Ma vie était juste une folie absolue. Parce que les fêtes, tout ce qu'on faisait en Iran, c'était vraiment fou. Mais peut-être c'est incompréhensible ici, parce que c'est des choses tellement normales d'avoir un truc de bière avec un chien et dans la voiture, conduire tout saoul, ivre, et passer devant la police.
Et bien sûr, mon adolescence, c'était beaucoup plus en fait de musique de rock, heavy metal, comme, et beaucoup de headbanging, comme j'allais toujours au conservatoire avec un casque autour de mon cou parce que j'avais mal, parce qu'on faisait tellement de...
Comment dire? Avec une minerve,
oui,
à secouer la tête.
Oui, et ça, c'est bon. Ça, c'était notre adolescence. Et après, ça change. On passe toujours... On a tous notre moment métal, un peu punk métal. Et danser, beaucoup de musique électronique, en fait. Il y avait beaucoup de fêtes.
J'ai rasé ma tête pendant un an et j'ai vécu un garçon. J'avais un nom, je s'appelle Amir, c'était mon nom. J'ai passé à l'école, j'étais une fille bien sûr, et je mettais le foulard pour aller à l'école. J'ai rasé ma tête deux fois, 14 ans avec 16 ans, ça c'est quand j'avais 16 ans. Et j'ai joué d'un rôle un garçon pendant un an à Téhéran. Et c'était quelque chose de folie absolue parce que c'était dangereux, c'était... très dangereux pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. Et je m'amusais vraiment bien avec les garçons, donner les numéros de téléphone aux filles, parler les discussions entre les garçons, adolescents, expliquer les règles, comment on baise les filles, des trucs comme ça. Et pour eux, c'était impressionnant parce que j'étais un garçon qui, je connaissais tout absolument. Et eux, ils connaissaient rien. Et c'était ça. Et un bagarre à la fin, ils m'ont bien me tapé à cause d'un jeu. On jouait le basketball dans la rue. On devait normalement donner un pizza. On a refusé de donner. Ils m'ont bien tapé. Après ça, j'avais tellement mal que j'ai dit, bon, j'arrête. J'arrête d'être qu'un garçon et j'ai laissé mes cheveux pousser. Peut-être c'est ça. Aussi rouler sur les toits avec mon vélo. Il y avait des trucs très, 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 très fins comme ça sur les toits. Que je mettais le vélo là, 13e étage, et je roulais. Comme... Vraiment, j'avais besoin d'adrénaline tout le temps. Et ça, c'était génial. Ou fait de balançoire avec, parce que Téhéran, c'est une ville en plein construction. Et notre immeuble, quand on était là-bas, il y avait des trucs pour monter les matériaux pour construire. Et nous, on fait des balançoires. Genre, on sautait comme ça et on revenait en sautant dedans.
Après, j'ai amené le jeu encore plus loin, d'aller dans les cérémonies religieuses avec les hommes. Et faire pour... on a le Tosua Ashura, c'est le moment où on pleure pour les saints. Et là, c'est une cérémonie. Il n'y a que des hommes qui se frappent la poitrine. Et moi, j'étais une fille, en prétendant que je suis un garçon, main dans la main avec les hommes, dans une situation très, très religieuse. Et je jouais avec le feu, juste pour dire que je fais tout ce que je veux. Et vous ne pouvez pas m'arrêter. Et je joue, mais je vis. À travers de jouer, je suis en train de vivre et vous dire que vous ne pouvez pas m'arrêter à faire ce que j'ai envie de faire. Vous qui voulez me donner les limitations, voulez me frapper, en vrai, c'est moi qui je vous frappe et vous n'êtes même pas au courant. Parce que je suis en train de vous l'arnaquer d'un point et vous ne savez même pas. Alors le jeu est devenu d'une autre dimension.
En 2023, sort Rokia, un film fantastique et plein d'action de Saïd Belktibia. Le tout quelque part en banlieue avec le toujours impressionnant Denis Lavant et l'excellent Jérôme Ferrari. Bande-annonce extrait.
Oui, t'es vivante.
C'est une grenouille très dangereuse, faut pas la toucher, ça soigne tout. T'as un pot de soupe ?
T'as tué Kevin.
Faut pas croire ces conneries.
Tout ce que je voulais, c'était l'aider.
Les gens pensent que je suis possédée, mais je crois que je suis juste en colère.
Et après, bien sûr, mensonge d'État qui a coupé ma vie en deux, parce que ça, c'est la cause de mon exil et j'étais obligée de partir, finalement.
Sortie en 2008, où elle est infirmière auprès de Leonardo DiCaprio et Russell Crowe. Excusez du peu.
Listen, I have a thing to tell you, an important one. A man is not his job. I mean, he's apart from his job, the man.
I understand.
I just want you to know my feeling, my understanding of you.
Well, thank you.
You're welcome.
Ma vie a basculé après ça. C'était égal exil, égal souffrance, égal blablabla, tous les trucs douloureux et dramatiques.
Vous dites que vous n'avez jamais eu vraiment peur du régime jusqu'au jour où vous vous êtes retrouvé devant le tribunal révolutionnaire. Pendant plusieurs mois, c'était en 2008, peu de temps après votre participation au film de Ridley Scott, Mensonge d'État. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Jusqu'à là, je jouais avec la mort. Mais le moment où je suis allée, le Cour national, c'est où ils donnent les exécutions. C'est l'endroit le plus effrayant que vous pouvez imaginer.
Plusieurs scènes de l'excellent film La loi de Téhéran se déroulent dans ce lieu glaçant, terrifiant, inhumain.
Je me suis rendu compte que avec celui-là, je ne peux rien faire. Ça veut dire que s'il veut, il peut me tuer et je ne peux pas jouer avec lui. S'il veut faire un exemple, il faut faire tout ce qu'il veut. L'Iran.
le pays des paradoxes dur à comprendre. C'est ça, c'est que ce personnage qui a donné les... qui a exécuté les amis de mon père quand j'avais 4 ans, il était mon fan. Il a un jour montré dans son téléphone mes photos à moi. Moi. Et ce mec, il était effrayant quand même, vous pouvez même pas le regarder, la façon qu'il était, on les appelle homo islamicus, ça veut dire qu'ils ont pas les homo sapiens sapiens, ils sont différents, ils ont un regard différent, ils sont différents avec nous. Et c'est dur à vivre. Et oui, lui, c'est lui qui m'a fait échapper de l'Iran. C'est lui qui m'a dit, partez.
En 2018, elle est une chef combattante yézidi dans le film d'Eva Husson, Les Filles du Soleil. Dans la BA, on l'entend apostropher un chef mâle, pas du tout alpha, et lui reproche de se terrer avec ses hommes alors que les femmes, elles, n'ont pas peur d'aller au combat. À la fin, elle lance en chœur le galvanisant slogan « Femme, vie, liberté ».
Mon unité est un peu différente des autres. Les filles sont toutes anciennes captives.
T'as fait quoi comme étude?
J'étais avocate.
Ça te manque?
C'est pas ce qui me manque.
Piyavakantan şarakın yapacağım onların. Öbe yarış bugün.
Yanına ya. De gerek mi Rubin'e kuştun?
Testa jeni zormanı da stava.
Comment t'en es venu à t'engager?
C'était ma seule chance de retrouver mon fils.
Urşen bu jingo azadi!
Je crois que j'étais inspirée par les personnages des femmes dans l'histoire que mon père a beaucoup aimé. Lui, il était un grand admirateur des femmes en général. Et ses pièces de théâtre, c'était toujours l'histoire d'une femme extraordinaire pour laquelle beaucoup d'hommes morts, parce qu'elle est tellement extraordinaire. Quand j'avais 4 ans, 5 ans, il avait une pièce où ma mère, elle jouait la personnage féminine et c'était une histoire d'amour comme un Roméo et Juliette à ses façons. Et moi, je regardais comme... Oui, c'était ma mère sur scène, mais c'était la façon que mon père il regardait la femme. Alors c'est comme ça, je crois, que j'étais inspirée.
J'ai rêvé de Saddam Hussein, de Mohamed VI, que des dictateurs arabes. Et là, je comprends pas. Pourquoi il y a Poutine?
Je viens travailler ici.
Quel travail? Il n'y a pas de travail ici.
J'installe mon cabinet sur le toit.
Un cabinet de psychanalyste, Tony Fitoni.
T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire.
Tu vas pas faire venir les fous chez nous?
C'est des patients que je recevrai chez moi.
Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique?
Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez?
Ah, Inch'Allah, Inch'Allah.
S'il vous plaît, oui ou non?
Inch'Allah.
Pourquoi t'es rentrée, Sam?
Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi?
Est-ce que vous recevez des hommes chez vous?
Des hommes et des femmes.
Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées.
Sexe prison.
Sorti en 2020, Un divan à Tunis de Manel Labidi, qui vient de sortir Reine Mère avec Camélia Jordana.
Aimer pour moi, c'est quelque chose qui est très charnel. C'est pas intellectuel. J'ai jamais aimé intellectuellement. C'est mon sang qui aime, c'est mes muscles, c'est ma chair qui aime. Et même mon esprit ne comprend pas. C'est comme un grand point d'interrogation. Quand on aime, on dirait qu'on se rappelle de quelqu'un qu'on connaît déjà. On se sent à la maison, chez soi. J'ai péché. Péché dans le plaisir, dans des bras chauds et enflammés. J'ai péché. Péché dans des bras de fer, dans des bras brûlants et rancuniers. Dans ces lieux calmes, sombres, et muet. J'ai regardé ses yeux pleins de mystère et des supplications de ses yeux. Mon cœur, impatiemment, a tremblé. Dans ce lieu calme, sombre et muet, je me suis assise près de lui, agitée. Ses lèvres enversaient l'envie sur mes lèvres. Du chagrin de mon cœur fou, je me suis libérée. Une histoire d'amour, je lui ai raconté. Je te veux, mon bien-aimé, je te veux. Toi, dans les bras sont vivifiants, je te veux, toi, mon amour fou. L'envie a enflammé son regard, le vin rouge a dansé dans le verre, et sur le lit doux, mon corps, ivre de volupté, sur sa poitrine a tremblé. گناه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگاه تاریک و خاموش جه پشه پشه دان لو پلیزیر پره دان کار ترامبلان و ایوانوی سینیور je ne sais pas ce que j'ai fait dans ce lieu calme sombre et muet.
Le péché, poème de Forug Farrokhzad que Gulshifteh Farahani dit à la Grande Librairie l'année dernière et sur Radio Alpa, donc pour le printemps des poètes.
Même ici, là, on ne peut pas comprendre qu'on peut mourir dans la rue si on ne porte pas le voile. Ça travaille sur les racines de dictature. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Mais ce qui se passe avec les femmes qui ne portent plus le voile, pas seulement à Téhéran, mais dans tout l'Iran, dans les petits villages, c'est humiliation complète, absolue de régime, de dictature, parce que quand même, l'oppression de la femme, c'était leur ligne rouge, c'était leur slogan. Mais là, ils tolèrent quand même. Et ça, c'est le début de la fin.
Donc on ne pourra plus revenir en arrière.
Jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. C'est une monstre sans jambes. Il ne peut plus marcher. Ça y est. Et on a oublié qu'on est unis quand même. On est l'humanité. Ce qui compte, c'est l'humanité, c'est les valeurs humaines. Mais nous, on continue à se battre, on continue à dépenser les vies, l'argent, l'énergie pour tuer l'un et l'autre, pour les bouts de terre. La dualité, c'est ce qu'on fait le plus, ce qu'on donne le plus souffrance dans notre vie. Et ça, c'est à cause des extrêmes qui créent ça, qui injectent ça dans l'âme de l'humanité. Mais quand même, il faut être une bougie, il faut être la lumière, briller dans l'obscurité, reconstruire un nouvel monde où il n'y a pas autant de l'absurdité de l'humaine et de la testostérone, justement.
Ainsi va se clore la visite à Gulshifteh Farahani sur Radio Alpa. Rediffusion lundi midi et jeudi à 17h30. Réécoute libre sur les meilleures plateformes. Mais nous n'y quittons pas sans musique et sans son interprétation de la chanson de Shervin Hajipour, Baraye, en live à Buenos Aires et en très bonne compagnie puisqu'il s'agit d'un concert de Coldplay. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, trouvez une solution pour simplifier la vie qu'on nous balance.
On veut toujours des choses complexes, extraordinaires, mais l'extraordinaire, c'est dans l'ordinaire. C'est l'émotion de sentir reconnaissante, d'être bien dans ce qu'on a, parce que cette vie est tellement courte et c'est un cadeau d'être là. Le reste, c'est juste les formalités. Et juste ramasser les expériences comme des fleurs et être content. Et vivre entièrement, parce que c'est qu'une vie, il faut vivre entièrement. La raison de vivre, la raison d'existence, c'est l'amour, c'est d'aimer.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت که زندگی من بی، برای کودک سوال گردار سواش، برای این اختصار فرستاد دستوری برای این هوای آلوده، برای بنی اسر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای توخالی، برای آمار خونه های گوشالی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Merci. Oh, c'est très amusant, ça.